Bonjour Jean-Baptiste Placa.
Bonjour Sébastien Duhamel.
Les opposants, Jean-Baptiste, ils se bousculent presque pour y aller en Guinée. Ils y vont sur la pointe des pieds au Tchad, mais pas tous, et ils s'y opposent vigoureusement au Mali. Comment expliquer des réactions aussi dissemblables d'un pays africain à l'autre lorsque le pouvoir appelle ses opposants à des concertations pour penser l'avenir de leur nation?
La nature des concertations n'est pas identique dans ces trois pays. Mais si votre question est de savoir si les Tchadiens auraient pu faire comme les Guinéens ou les Maliens comme les Tchadiens, la réponse est oui. Oui, pour toutes les inversions qui pourraient vous tenter, car si l'intérêt de leur peuple détermine généralement l'attitude de quelques-uns, pour beaucoup d'opposants, ce sont leurs propres intérêts du moment qui expliquent cette versatilité depuis une trentaine d'années. Que les peuples africains se rendent compte qu'ils n'ont pas des serviteurs, ils n'ont que des personnes qui s'engraissent ou veulent s'engraisser sur leur dos, affirmait dans une interview accordée à notre confrère Thierry Hott sur Africa 24 en 2009, le constitutionnaliste burkinabé Laurent Bado, professeur agrégé.
Et en quoi, Jean-Baptiste, la situation diffère-t-elle dans les trois pays?
Au Tchad, le pouvoir qui convoque les concertations est détenu par l'héritier du maréchal Déby, qui gouverne avec quelques opposants qui ont chacun leur agenda, même si tous vous diront qu'ils se sacrifient pour la patrie. Les opposants rétifs à la grande conférence en préparation craignent de se faire piéger comme ils l'étaient régulièrement avec le père. En Guinée, les putschistes viennent de débarquer et ils cherchent avec qui gouverner. Tous ceux qui voudraient prendre part au festin de la transition se manifestent donc, mais tous vous diront que c'est pour le bien de la Guinée. Dans quelques semaines, ceux qui ne seraient pas admis au bord de la mangeoire s'opposeront vigoureusement en soutenant que c'est pour le bien des Guinéens. Au Mali, le pouvoir de transition est aux mains des militaires et d'une frange de l'opposition chez qui les autres opposants croient déceler une volonté de perdurer. Les peuples d'Afrique avaient sincèrement cru aux promesses de liberté et de mieux-être lorsque s'écroulaient les régimes anciens, dépeints comme autant de pyramides de despotisme et de corruption. Avec le temps, il a fallu souvent déchanter et même parfois regretter les régimes anciens.
Alors on se pose naturellement une question, Jean-Baptiste, la cause serait-elle perdue pour de bon ?
Non, mais pour sortir du cercle infernal des opposants qui deviennent des dirigeants pires que ceux qu'ils avaient combattus, il faut des femmes et des hommes de conviction avec de la constance et une intégrité un peu moins périssable. Et le passé des hommes n'est pas un détail anodin lorsqu'il faut se choisir des dirigeants. Réécoutez donc cette interview d'une rare puissance dans laquelle un jeune leader de parti politique malien mettait en garde en juin dernier contre le choix de l'actuel premier ministre qu'il présentait alors, ouvrez les guillemets, comme l'expression la plus complète de l'échec des hommes politiques qui ont dirigé le pays au cours des 15-20 dernières années. Ceux qui ont fait dérailler le train ne peuvent pas le remettre sur les rails, soutenait-il. Et lorsque David Baché lui fait observer que lui-même était aux côtés du même Choguel Maïga pour faire partir Ibeka, il répond « Nous n'avons pas mené le combat dans la rue pour devenir Premier ministre ou pour diriger une transition. En tant qu'ancien ministre, porte-parole même du gouvernement d'Ibeka, il est comptable du bilan de l'ancien régime et partage la responsabilité de la faillite morale de notre pays. » Ce qui manque à la politique sur ce continent, ce sont des femmes et hommes capables de se comporter de manière suffisamment convaincante pour que tous sachent où se situe l'intérêt général et quel choix proscrire pour ne pas desservir leur peuple.